Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire, là.
C'est vraiment un avis, ce film.
Vous voyez, c'est tout à fait bouleversifié.
Cinéma! Cinéma!
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde!
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument.
Tous les jours, on en a plein les yeux. T'es là, ouf.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Festival, la déclinaison cannoise de votre émission d'actualité cinématographique, Le Comptoir du Cinéma, uniquement sur Transistor. Alors à Cannes, on fait pas mal de rencontres, hein, qu'il s'agisse d'une programmatrice à San Francisco dans la queue pour retirer les accréditations, d'un critique canadien assis à côté de moi dans la salle Buñuel, ou bien du vigile de la terrasse des journalistes. Et bon, on me dit que croiser Cate Blanchett dans le lobby du troisième étage du Palais des Festivals ne compte pas, mais on a été dans son champ de vision, donc permettons-nous de la citer quand même parmi ces rencontres qu'on a pu faire. Non, parmi ces rencontres, ces échanges, toujours sympathiques, certaines rencontres auront conduit à des échanges enregistrés, vos journalistes ayant sur eux leur bien fidèle enregistreur Zoom, leur micro-reportage et leur câble XLR. Alors, non, on n'a pas échangé avec Cate Blanchett, hein, évidemment, mais on a fait par hasard, en revanche, la connaissance de Robin Buchholz, un ancien de Transmission, feu la web radio sœur et néanmoins ami de Transistor, à l'ENS d'Ulm, de Paris, et nous avons, à sa demande et avec plaisir, enregistré le lendemain de notre rencontre sur nos expériences festivalières, sur ce que représentait Cannes pour nous, et sur ce qu'il y aurait à garder de cette édition 2026. Alors, sans plus attendre, avec les collègues et néanmoins amis, là encore, Claire et Aubry, laissez-vous porter par nos échanges et par le bruit des vagues dans ce nouvel enregistrement quasi-direct de Cannes, et puis à très vite pour le début des critiques cannoises. Vive le cinéma et vive Transistor. C'est hier soir, après la première en gala de Fjord, eh bien, Aubry, Claire et moi, on a fait ta connaissance, Robin, au restaurant indien pas très éloigné du Palais des Festivals et que d'ailleurs on en profite pour recommander, voilà, le Bollywood. On a fait connaissance, on a discuté, on a sympathisé et bien pour des raisons que je te laisserai expliquer et évoquer, on s'est dit que ce serait assez intéressant de te déléguer le micro. Robin, je t'en prie, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et dire voilà, ce que tu fais au Festival de Cannes et pourquoi est-ce que tu nous as abordé finalement hier dans ce restaurant.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. J'étais en effet hier soir à dîner tout seul et j'entendais à côté de moi un débat tout à fait charmant et aussi assez poussé, avec un vocabulaire soutenu, et ça débattait fort. Et je me disais, c'est précisément cela que j'adore au Festival de Cannes, c'est qu'il y a un vrai amour du cinéma parmi les spectateurs et les spectatrices. Et j'entendais au bout d'un moment que vous parliez de podcast. Alors, je me suis tourné vers vous et j'ai demandé, mais quelle est cette radio ? Et Transistor a été nommé. Et je connais bien Transistor puisque j'ai été moi-même chez Transmission, c'est-à-dire la radio sœur à l'École normale supérieure de Paris, où j'étais venu à Cannes il y a 10 ou 15 ans. À plusieurs reprises avec un certain nombre de collègues pour faire des critiques similaires aux vôtres. Et moi, j'étais particulièrement intéressé par les choses autour des projections et j'avais une émission qui s'appelait Minuit à Cannes où je m'intéressais au star system, à la publicité en tout lieu et en toutes circonstances et aux festivités. Auquel je me rendais ainsi que mes amis, mes collègues de Transmission. Donc j'étais à Ulm, j'étais étudiant en philosophie, j'étais entré en 2009 Et on avait fondé Transmission en janvier 2012. Et ça avait été une radio qui a très bien marché. On avait créé une sorte de d'émission aussi pour tous les campus de PSL, ce regroupement de grandes écoles pour, à Paris. Et effectivement, ces voyages à Cannes toutes les années. Voilà, mon cher Louis, ça c'est l'introduction pour débuter.
Merci beaucoup. Peut-être que vous voulez...
Oui, moi j'avais une première question un peu qui rentre dans le sujet, enfin qui rentre un peu les pieds dans le plat, mais est-ce qu'il y a un moment justement de ces émissions, et peut-être en particulier des émissions Minuit à Cannes, que vous avez en tête et que vous aimeriez nous partager aujourd'hui?
Disons, c'est moins un moment précis de ces émissions, mais davantage la réalisation que toutes ces choses que nous voyons ici à Cannes sont sponsorisées. La venue notamment des célébrités sur le tapis rouge, où l'on pense, ah voilà, les célébrités sont là, elles viennent honorer ce film par leur présence. La plupart de ces célébrités sont invitées par des marques à promouvoir des vêtements, des bijoux, et reçoivent un cachet pour cela. Et vous avez peut-être remarqué sur la croisette, il y a des publicités partout. Des publicités pour des films, mais aussi pour des voitures, pour des téléphones portables. Hier, je discutais avec un ami qui fait la musique sur le tapis rouge, et il me disait, Cannes, ça devient comme le Times Square. Il y a des panneaux partout, et c'est voilà, une publicité totale.
Oui, justement, parce qu'en fait, je trouve ça très intéressant, cette l'importance des marques, parce qu'on le voit beaucoup, on y pense, quand on pense Cannes, on pense beaucoup stars, paillettes, etc. Et malgré tout, il y a, disons, l'autre versant très cinéphile qui veut justement, malgré tout, garder cette place au cœur du festival. Et je me demandais un peu quelle était votre, votre vision du festival à l'avenir. En fait, moi, là, en ce moment, je travaille dans le mécénat, bon, c'est dans le milieu du théâtre, donc c'est un peu différent, parce que justement, le théâtre est très réticent à cette entrée du mécénat de plus en plus, et le cinéma l'est beaucoup moins. Et c'est une comparaison qui m'intéresse, et j'aurais un peu aimé avoir votre avis, justement, sur cette place autant importante, disons, dans le système qu'est le cinéma aujourd'hui, au-delà de juste Cannes, qui en est vraiment le symbole, je trouve.
Ouais, c'est une question intéressante, parce que... le cinéma est en effet une sorte de continuation du théâtre, mais avec des budgets très différents souvent, et aussi un public qui ne vient pas se retrouver une fois dans une salle le soir, mais qui peut consommer ses œuvres à tout moment sur des écrans ou bien dans des salles de cinéma. Mais historiquement, le cinéma et le théâtre étaient très liés, et la plupart des scènes tournées autrefois étaient filmées comme si on était au théâtre, n'est-ce pas? Et les scènes de dîner étaient souvent un peu absurdes, parce que tout le monde faisait face à la caméra, n'est-ce pas? C'est Monsieur Bordwell, je crois, qui a fait ses recherches sur ce sujet, le Dinner Table Conundrum. Mais voilà. Vis-à-vis de l'argent dans le cinéma, je suis moi-même un peu surpris par les sommes, mais aussi par la taille des équipes, et aussi par le modèle de rémunération qui est très acrobatique, n'est-ce pas, entre les producteurs, les distributeurs, les réalisateurs, les acteurs, les sponsors. Les salles de cinéma, le CNC, on se trouve en ce moment sur la plage du CNC pour faire cette émission, c'est extrêmement complexe. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faille ne pas souhaiter, Parce qu'il y a quand même chaque année des chefs-d'œuvre qui sont produits.
Mais non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que comme Claire t'as pu le dire, Lulu aussi, puis toi Robin, on a beaucoup le côté effectivement, enfin le côté cinéma de Cannes, mais on se doute moins des logiques, on va dire juste d'industrie qui fonctionne derrière aussi, à savoir que littéralement sous les salles de projection, il y a aussi le marché du film, les lieux de rencontre des producteurs, des distributeurs, et en gros toute l'industrie de l'année à venir qui se fait. Est-ce que toi, avec ces années de festival, tu as aussi pu rencontrer ou discuter avec des gens de l'industrie à cet endroit-là, rencontrer éventuellement des producteurs, des distributeurs, je sais pas, si tu as eu des rencontres comme ça
Alors, j'ai un frère qui est producteur de cinéma et j'ai des amis qui sont producteurs, agents, réalisateurs aussi. Et le Festival de Cannes, c'est le plus grand marché du film au monde. Et ce que je trouve amusant, c'est qu'il y a le Palais des Festivals avec le Grand Théâtre Lumière où sont montrés les films. Mais en dessous et aussi à côté, il y a... voilà, un monstre. Et c'est un lieu où il y a des petits stands qui ressemblent à pas grand-chose, n'est-ce pas ? Où des films sont... on essaie de vendre des films. Et il y a des personnes qui vont là. Et voilà, c'est une sorte de foire où les achats se comptent certainement en centaines de milliers ou en millions d'euros. Et c'est... ah, c'est un lieu de rencontres internationales très vif où les rencontres se font peut-être ici sur la plage du CNC, parfois dans les fêtes sur les plages, les fêtes des films, aussi beaucoup au, je crois que ça s'appelle le Petit Martinez, non, c'est ça, où tous les soirs les professionnels du cinéma qui sont présents ici se rencontrent. Et je sais que mon frère a obtenu sa place dans le cinéma aussi beaucoup par ces choses parallèles au business traditionnel. Voilà, il y a un peu construire sa marque et c'est des rencontres, je crois, surtout humaines qui permettent à des projets de se faire.
Merci beaucoup. Tu nous as dit hier que, il me semble, aujourd'hui était ton dernier jour ici à Cannes. Donc, tu as vu pas mal de films, deux par jour quasiment, hein, depuis que tu es arrivé. Pour parler de cette édition du festival, après avoir évoqué le festival structurellement comme un système dans son ensemble depuis le début de cette interview, quelle séance ou quel film, les deux ne se recoupant d'ailleurs pas obligatoirement, t'ont marqué pour cette édition 2026, et quel est ton ressenti d'ailleurs global sur cette compétition cette année?
Alors, de façon générale, ce qui me plaît dans les séances, c'est que le public est extrêmement vif, et ce qui m'amuse beaucoup, c'est que il y a des applaudissements à chaque fois qu'une des sociétés de production apparaît à l'écran. Et c'est quelque chose que l'on n'entend jamais dans les UGC dans lesquels nous allons à Lyon et à Paris. Et cette année, lorsque le Canal Plus apparaissait, les gens huaient dans la salle, même parfois en disant des choses un peu grossières. C'est un moment intéressant. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve amusant en général. Et parmi les films que j'ai trouvé intéressants, il y a Hope de Na Young-jin, ainsi que Histoire parallèle du réalisateur iranien. Et ce matin, nous avons vu, je crois, tous ensemble, le film qui s'intitule... L'inconnu, absolument, de Harari et famille, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de ces membres de la famille qui étaient au son, au scénario. Et c'était des films intéressants.
À la rigueur, enfin, tant qu'à mentionner les séances marquantes, comment dire, je sais pas si là dans ce que tu as vu, parce que tu as dit que les films étaient intéressants, mais peut-être aussi que tu n'as pas encore eu, on va dire, de gros chocs, enfin, de trucs qui t'emportent particulièrement et dont tu sens que tu vas te souvenir longtemps. Mais à ce moment-là, est-ce que peut-être dans les précédentes éditions du festival auxquelles tu as pu participer, tu as des séances comme ça dont tu te souviens encore, ou des films dont tu te souviens encore que tu as pu découvrir ici à Cannes?
C'est une expérience rapportée. Il y a quelques années, mon frère était invité à voir un film en montée des marches, et il se trouvait qu'il était assis dans l'orchestre derrière l'équipe du film, et en particulier derrière Quentin Tarantino, qui présentait, il me semble, Once Upon a Time in Hollywood, il me semble. Et en tout cas, quand Tarantino ne tient pas en place dans son fauteuil au moment du film, il est tout frénétique. Et voilà, cette proximité que l'on a parfois avec des géants du cinéma, c'est assez touchant et assez marquant. Et voilà, j'ai vu plusieurs films en montée des marches cette fois-ci. Et voilà, autour de moi, il y a toutes ces personnes que j'admire. Et je trouve que ce moment où l'on voit des célébrités pour la première fois, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de la transcendance. C'est comme si ces êtres qui sont toujours à l'écran ont soudain un corps, un peu comme Dieu qui devient chair avec le Christ. Voilà, je dis ça un peu en rigolant, mais je pense que certaines figures du cinéma agissent d'une manière similaire aux icônes. Et d'ailleurs, quand on pense à la presse People et aussi à toutes les parentés qu'il y a entre les acteurs du cinéma, finalement, Hollywood, c'est un peu le mont Olympe. Et les histoires qui s'y passent, c'est un peu ce que Homer pourrait raconter, n'est-ce pas? Avec, voilà, des histoires parfois farfelues, comme dans la mythologie grecque.
Non, mais c'est plus une remarque qu'une question, mais d'ailleurs, je trouve que le Festival de Cannes a ça aussi, enfin, en tout cas, en tant que novice, là, c'est la première fois que je viens, et il y a un peu cette impression de rentrer dans notre télé, en fait, parce que c'est des images qu'on voit beaucoup, et c'est la même chose avec les stars qu'on peut croiser relativement facilement, quand même. Et ouais, qu'il y a ce truc d'un coup de revenir au réel et au concret du cinéma qu'on a très peu ailleurs, parce que c'est des salles noires, etc., machin. Et ouais, non, je trouve ça très juste. Enfin, et en fait, c'est un des paradoxes, je trouve, du festival, qui est que c'est à la fois cette image avec, comme on le disait, les stars, les paillettes, la montée des marches, et en même temps, c'est très très concret, parce que c'est le marché du film, parce que c'est les stars en chair et en os, et c'est les films dans toute leur vulnérabilité qu'ils ont au moment là, des séances en gala, par exemple, hier soir, où on sent que tout se joue, et c'est pas seulement la question commerciale, il y a aussi la portée politique du film. Enfin, là, on l'a vu hier avec Fjord, il y avait cette fragilité, je trouvais, dans le propos du film, qui voulait absolument être transmis. Et il y avait ce risque qui a été pris et qui, là, en tout cas, a fonctionné hier. Et c'est très beau, je trouve, à voir au festival.
Oui, non, pareil, je suis complètement d'accord. Et puis même, le côté concret, comme on l'a dit, il va même jusque dans les séances où il y a vraiment... il y a vraiment une importance du format séance et du fait que c'est des trucs qui se passent en salle avec des salles qui sont combles. Souvent les équipes du film qui sont là, et en fait, même quand elles sont pas là, en fait, on voit que des séances de gala ou séances de reprise, en passant par les séances même au cinéma ou dans tous les cinémas de Cannes, il y a toujours les mêmes applaudissements et la même ambiance. Et c'est vrai qu'en plus, quand on ajoute les équipes des films, ça fait toujours quelque chose. Et qu'en fait, ça permet aussi de se rendre compte avec, quand les équipes en fait présentent leur travail aussi, que les films concrètement ils ont une histoire, qu'ils sont fabriqués sur un certain temps, avec certaines difficultés, certaines contraintes qui viennent de certains endroits. Enfin je sais pas, là moi tout à l'heure j'étais à la première d'un film rwandais, qui est une première dans l'histoire du festival, enfin en tout cas en sélection officielle, Benimana effectivement, et c'était émouvant en tout cas d'entendre la réalisatrice parler avec émotion de la production de son film et de ce que ça représente que d'être à Cannes face à du public. Et c'est un peu ça pour, en fait, pour tous les films à toutes les échelles. Et ouais, c'est une ambiance qui est quand même particulière, et comme tu as dit Claire, qui donne vraiment du concret, quoi.
Et puis pour rebondir sur ce que vous avez dit, dans les séances presse elles-mêmes sont une ambiance très très singulière. C'est-à-dire que nous, on a de la chance d'avoir donc cet accès régulier à la salle de Bussy où se font les projections réservées aux journalistes. Et en fait, là aussi, on voit d'une certaine façon, au-delà de la superficialité à laquelle on peut réduire Cannes, et à juste titre par moment, d'une histoire en train de s'écrire à ce moment-là, en voyant, je pense à la séance de Hope qui pour le coup était vraiment une séance marquante, aussi bien dans les réactions du public qui applaudissait pour le coup pendant le film à l'arrivée d'un personnage, à un effet de style ralenti ou que sais-je, et aussi les réactions des critiques qui étaient très très nombreux en fait au fur et à mesure de la séance à partir face à un film qui, comme tu l'as signalé Robin, est assez peu décontenancé, et on a décontenancé en réalité plus d'un, plus d'une, même deux minutes, hein, quasiment quelqu'un se levait et quittait la salle, alors sans grand esbrouf en hurlant, même si on a eu aussi une séance où quelqu'un s'est énervé à la fin du film pour engueuler le film. Les séances presse font aussi partie de cette espèce de sentiment d'être au cœur de la création, de l'écriture en fait, du cinéma et de films qui ne sont pas encore sortis, de films qui sont finalement presque inachevés encore dans la mesure où ils n'ont pas atteint la sortie en salle générale.
Dont certains d'ailleurs sont inachevés lors des projections à Cannes, ne serait-ce que, alors j'ai pas de... Hope d'ailleurs en fait techniquement est inachevé parce que le réalisateur et la production ont annoncé que le film allait repartir en montage dans les semaines qui suivent pour finaliser notamment quelques effets spéciaux et quelques plans. Mais on peut mentionner ne serait-ce que Résurrection l'année dernière, qui a fait grand bruit aussi, et qui a été remonté plusieurs fois, ce qui fait qu'en fait la version cannoise était un montage unique qui n'est jamais sorti autrement, quoi.
Juste peut-être ajouter qu'il y a aussi quelque chose de très collectif au Festival de Cannes, et que les équipes, certes on voit les stars monter les marches, mais il y a toutes les équipes qui sont derrière et qui sont présentes à chaque fois aux projections, mais aussi rien qu'en conférence de presse, et je pense à deux séances notamment où il y avait vraiment ce film qui était porté par un groupe, et c'était le cas pour Mémoire de fille, qui, bon, c'est un film que j'ai pas particulièrement aimé, mais il y avait vraiment ça se voyait que c'était une construction et que c'était réfléchi et que chacun avait son rôle, mais que c'était toujours en dialogue. Il y avait aussi un film de Cannes classique que j'ai vu hier, qui je trouve a une histoire très belle autour du film, et c'est Eva de... attendez, parce que je me souviens plus, mais en fait c'est une chercheuse, enfin en fait tout est parti de plusieurs rencontres au Festival de Cannes d'une chercheuse qui avait travaillé sur cette réalisatrice grecque des années 50, et qui après main dans la main avec un laboratoire de restauration ou une équipe de restauration italienne a pu restaurer le film, et c'est ensuite comme ça qu'il a pu arriver à Cannes. Et elle racontait même combien ses élèves en fait, qui étaient présents à la toute première séance du festival, à laquelle ils avaient dit « mais oh là là, il faut que ce film vienne ». Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de beau de voir que c'est aussi sur le temps long, et que c'est pas seulement ces 10 jours hyper intenses de frénésie du cinéma comme ça, d'un coup français, mais aussi vachement international.
Robin, un mot de la fin, si tu veux, pour conclure ces échanges, ou bien c'était un...
J'ai oublié le nom de la réalisatrice, mais c'est Maria Plita.
Le mot de la fin peut être légèrement anecdotique, mais je pense que vos chroniqueurs et votre chroniqueuse ont une chance inouïe d'être à Cannes. Et je suis certain qu'il vous offre des chroniques et des rapports très, très intéressant. Et le Festival de Cannes, c'est, je pense, le plus beau festival de cinéma au monde. Et il y a... voilà, je suis allemand et j'ai beaucoup de respect pour la France, pour, voilà, pour maintenir et, cette célébration du 7e art. Et, voilà, et on s'y amuse beaucoup par ailleurs, évidemment.
Merci Robin.